France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, émission préparée avec Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Louan Deniel, Inès Bouffartig, Sébastien et Loïc Antoine. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Marie-Claire Oumabadi. C'est le deuxième épisode de notre série consacrée aux jeux vidéo et à cet engouement mondial qu'il suscite toujours. Nous n'avons pas de chiffres sur l'énergie qu'il consomme. En revanche, on sait que le marché mondial du jeu vidéo atteint 189 milliards de dollars cette année. Les jeux de guerre sont toujours en tête des ventes, avec toutes les questions que cela pose. Jeux vidéo quand la guerre se joue.
It's just a matter of time.
Ce n'est qu'une question de temps.
I'm not looking to make friends.
Votre nom ? Je ne cherche pas à me faire des amis.
You're only fighting yourself.
Si vous vous battez, soldat, vous vous battez contre vous-même.
Oh merde, j'étais nul à chier. Oula, comment je prends ma grenade déjà ? En effet, on dirait un peu, en vrai, l'Irak, quoi. Tiens, boum, dans ta tête, toi. Et je viens de faire un putain d'headshot, un terroriste, là, à bout portant, avec un fusil à pompe.
Et t'as pas eu envie de faire ça dans la vraie vie, militaire ?
Non, la guerre au chaud, c'est mieux, quoi.
C'est vrai que mourir sur le champ de bataille manque de dignité, dit un personnage d'À l'Est d'Éden, le roman de Steinbeck. La plupart du temps, cela se traduit par un écrabouillement de viande et de liquide humain. Alors pour s'éviter les salissures, les éclats de chair militaire, la menace qui vient de partout, d'en haut, d'en face ou d'en bas, autant rester au chaud en effet, et se sentir heureux d'avoir pour seul effet physique ce goût étrange et métallique qui emplit la bouche quand survient le danger. Aujourd'hui, les jeux de guerre sont toujours parmi les plus vendus de par le monde, qu'il s'agisse de jeux de tir dits à la première personne, comme si vous étiez dans les yeux du combattant, ou des jeux de stratégie militaire, Call of Duty, Counter-Strike, Battlefield, Medal of Honor, Company of Heroes. Après s'être inspiré pendant longtemps de conflits historiques comme la Seconde Guerre mondiale, ces jeux ont progressivement choisi d'autres terrains, le Proche-Orient après les guerres d'Irak ou d'Afghanistan et aujourd'hui l'Ukraine. Mais en fonction de qui les a créés, dessinés, écrits, ces jeux ne racontent pas la même histoire, ne prennent pas le même point de vue et in fine ne servent pas les mêmes discours. Les jeux de guerre sont en cela aussi des outils politiques et peuvent être mobilisés par les armées qui les utilisent par ailleurs souvent pour entraîner leurs soldats. Pour évoquer ces questions que posent les jeux de guerre, nous recevons Anthony Dabila, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Culture Monde. Vous êtes chercheur associé au CEVIPOF et à l'Institut d'études de stratégie et défense de Lyon 3 Jean Moulin, auteur de L'échiquier stratégique, la grammaire de la guerre à travers les âges, un livre qui a paru au Seuil en septembre. Bonjour Olivier Mocco.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes chercheur en sciences politiques, enseignant à l'Université Paris-Dauphine en économie du jeu vidéo, fondateur de l'Observatoire européen des jeux vidéo et vous êtes vous-même créateur de jeux vidéo, mais je précise que vous ne créez pas de jeux de guerre. Olivier Mocco, quand on joue à un jeu vidéo de guerre, est-ce qu'on est nécessairement dans la peau d'un soldat ? Toujours ?
Alors, on incarne souvent un soldat d'élite ou même un première classe qui a justement progressé au fil des missions. Maintenant, c'est toute la problématique de l'identité. Est-ce que l'on est ce soldat-là ou est-ce qu'on joue à ? C'est cette nuance qui est importante et c'est la même nuance que l'on a lorsqu'on regarde un film ou qu'on lit un livre. C'est la suspension of disbelief, donc c'est la suspension de l'incrédulité. Donc, il y a un contrat qui se pose et on se dit, voilà, le temps d'un jeu, je joue à être un soldat. On reviendra dessus exactement sur ce que ça signifie être soldat en ligne.
Est-ce que je joue à tuer ou à ne pas être tué ? C'est encore une autre question que Mélanie Chalandon posera tout à l'heure dans le focus au philosophe Dimitri Megarbi pour évoquer les questions morales que cela pose. Qu'est-ce qui justifie dans les jeux, les scénarios proposés, le fait de partir à la guerre ? Olivier Mocco, est-ce que il s'agit en général d'une obligation parce que vous êtes appelé ou est-ce qu'il s'agit de défendre son pays, sa patrie, des valeurs ?
Alors, il y a énormément de valeurs dans les jeux. On avait pu étudier l'ensemble des jeux vidéo d'action et de guerre, toute la saga Call of Duty, mais d'autres. On se rend compte que, premièrement, il y a une légitimation forte à l'action, parce que vous êtes soldat, avec les pouvoirs plus publics qui vous mobilisent, parfois les instances les plus élevées, le président qui vous incite à aller sur le front, et pour défendre des valeurs telles que alors la démocratie, qui est un concept assez flou dans ces jeux-là, et la liberté, surtout et avant toute chose, contre les oppresseurs et contre les méchants. Donc oui, il y a des valeurs fortes là-dessus.
L'appel du devoir, souvent c'est la menace de l'ordre public qui prévaut. L'appel du devoir, pour reprendre le titre de l'un des jeux de guerre les plus connus, Call of Duty. Vous aviez tous les deux envie, Anthony Dabila et Olivier Moucaud, de rappeler que le cofondateur de Call of Duty est mort ce week-end à Los Angeles, Vince Zampala. Il est mort dans un accident de voiture. Qu'est-ce qu'on peut dire de Call of Duty dans la typologie des jeux de guerre, Anthony Dabila? Quelle place occupe une série comme Call of Duty? Qu'est-ce qui la distingue d'autres séries comme Battlefield, par exemple, qui est un autre jeu de tir à la première personne et un autre succès mondial?
Alors, Battlefield était le premier. Call of Duty était une des premières séries qui a traité de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu une série de jeux. Tout d'abord, ça a été Medal of Honor qui a été produit par Steven Spielberg via DreamWorks, puis Battlefield, et il y a ce qu'on appelle les modifications des jeux vidéo qui ont rendu ça d'autant plus populaire, avec des versions qui étaient gratuites, notamment un mode très important qui était Day of Defeat. C'est une modification de Counter-Strike, qui est lui-même une modification multijoueur d'un jeu très important qui est Half-Life.
Vous allez dans beaucoup de détails là,
voilà,
le style peut-être Call of Duty.
C'est une manière d'incarner des campagnes, de jouer des épisodes précis comme le débarquement, la bataille des Ardennes, et une manière de revivre donc les grands épisodes à la première personne.
C'est parti! Laissez la rampe! On a un découvert! C'était un ordre, nom de Dieu! La rampe!
Le débarquement allié en Normandie, l'opération Overlord dans Call of Duty, la mission World War II. Est-ce que les joueurs sont toujours du côté des alliés et toujours sur le front de l'Ouest quand les jeux parlent ou nous situent dans la Seconde Guerre mondiale, Anthony Dabila?
Alors, il y a un tournant qui a été fait dans les jeux vidéo, c'est celui où on s'est mis à jouer les méchants. Il y a plusieurs jeux qui ont pris cette perspective. Un jeu de gestion où on gérait à la fois le paradis et les enfers, qui s'appelait Afterlife. Ça, c'était au milieu des années 90. Puis Postal, qui était tout d'abord un jeu à la troisième personne, en 3D isométrique, comme on dit, mais qui est ensuite devenu un FPS dans le deuxième volume, Postal 2.
FPS, c'est les jeux de tir à la première personne. Donc, quand on a l'impression d'être dans les yeux des joueurs, il faut vraiment penser que je ne suis pas du tout spécialiste des jeux vidéo et beaucoup d'auditeurs.
En vue subjective, comme on disait longtemps en français, avant que l'acronyme FPS se généralise. Il y a donc Battlefield qui est sorti en 2001, dans lequel on pouvait, donc Battlefield 1942, c'est le tout premier de la série, dans lequel on pouvait jouer à la fois les alliés et les Allemands. Six mois après environ, le mode dont je parlais, Day of Defeat, qui est sorti et dans lequel on pouvait vraiment incarner à la fois les Allemands et les Américains.
Il y a dans Day of Defeat deux équipes, les forces américaines ou les forces de l'Axe. Et le but du jeu, c'est de s'emparer de la totalité de la carte ou d'un maximum de terrain avant la fin du temps imparti. Sauf qu'on peut jouer du côté des forces de l'Axe. Il y a une sorte de partie avec ces forces de l'Axe et les Américains dans un décor qui ressemble à celui d'un village de Normandie. On les voit qu'ils se battent pour atteindre les drapeaux qui matérialisent les points stratégiques dont il faut prendre le contrôle. C'est pas nouveau. En 98, déjà dans le jeu Combat Flight Simulator, les joueurs pouvaient sélectionner des avions de la Luftwaffe. Est-ce qu'il s'agit, Olivier Moucaud, dans ces jeux-là, d'être en empathie avec l'armée allemande, voire les nazis? Est-ce que ça contribue à une sorte de relativisme, voire de révisionnisme, où à chaque fois il y a une façon de le raconter qui est un petit peu différente, ou une façon de s'emparer du jeu qui est un petit peu différente?
Il faut bien distinguer ce qui relève de la campagne narrative solo dans lequel justement vous incarnez un rôle précis dans une histoire avec des buts, et puis la partie multijoueur qui est la partie en tout cas la plus prépondérante maintenant dans les jeux de tir où on va s'affronter comme on joue au gendarme et au voleur. Bah à un moment donné vous avez été le gendarme dans l'histoire, mais il va s'ouvrir le grand moment où vous jouez tous ensemble les uns contre les autres par équipe, et on incarne effectivement, ça peut être des nazis, ça peut être dans certains cas même des terroristes qui ont posé plutôt des question morale avec un dernier Medal of Honor où on peut jouer des talibans. Donc on a vraiment cette question-là qui se pose toujours. Est-ce que le fait de jouer des méchants, c'est être le méchant? Les processus d'identification dans le jeu sont relativement faibles parce que ça reste des jeux de tir et des jeux de stratégie et de réflexe. Par contre, effectivement, c'est toute la réception politique en effet derrière et à côté qui est importante, à savoir est-ce que je légitime ou pas l'action. Généralement, quand vous jouez dans ces jeux-là, vous avez eu même des évolutions où ils ont voulu prendre zéro risque politique. C'était les Red vs Blue dans les Halo, et là vous étiez vraiment les rouges contre les bleus et il n'y avait pas de signification. Donc il y a toujours cette ambiguïté, alors qui n'est pas une ambiguïté volontaire, hein, qui est une ambiguïté de fait sur la pratique de jouer à quelque chose, mais qui a un contexte diégétique, historique, marqué.
Et vous citiez la série Medal of Honor qui, dans un jeu des années 2000, la fin des années 2000, permettait dans sa version multijoueur d'incarner des talibans. La Grande-Bretagne et aussi les États-Unis, je crois, avaient boycotté ce jeu en disant qu'ils étaient anti-patriotes, notamment. Il y avait eu beaucoup de débats à ce sujet. Est-ce que ce jeu était vraiment précisément situé? C'est-à-dire, est-ce qu'il était vraiment précisé dès le texte de départ, dès l'introduction, qu'on était en Afghanistan, où ce sont des indices qu'on trouve disséminés ici et là, Anthony Dabila, qui nous le font imaginer et sentir qu'on est sur un terrain du Moyen-Orient.
Alors bon, les jeux vidéo de cette série notamment essayent souvent de mettre en scène des guerres qui se passent à un horizon de 3, 4 ans, 5 ans, c'est-à-dire un futur assez proche, qui peut être une extrapolation de l'actualité, et dans la série Battlefield notamment, qui ensuite, au départ c'était la Seconde Guerre mondiale, mais le système de jeu, le gameplay, a été réutilisé pour des épisodes plus récents, voire des épisodes d'anticipation. Il y a bien même un Battlefield 1142, et voilà, ça permet d'explorer sous la forme de pas de l'Uchronie, mais de l'anticipation, il y a aussi des Uchronies, des épisodes qui sont probables, une manière de voir dégénérer l'actualité internationale qui produit des effets, et il y a eu des épisodes de Battlefield qui font vraiment beaucoup penser à la guerre d'Ukraine en ce moment.
D'ailleurs, c'est intéressant de voir que une sorte de contre-exemple est sorti en octobre dernier de Battlefield, justement c'est le 6, ça se passe en 2027 lors d'une troisième guerre mondiale déclenchée par une force armée privée qui lance une attaque contre les forces de l'OTAN en Géorgie. Les créateurs du jeu eux-mêmes se défendent de faire toute politique, ils assurent eux-mêmes qu'ils ne regardent pas l'actualité, et le jeu d'ailleurs choisit volontairement l'abstraction, écrit le journaliste Pierre Trouvé dans le journal Le Monde. Pas de grande puissance à abattre, mais un groupe paramilitaire appelé Pax Armata, une menace très floue, presque sans visage jusqu'à présent. Pourquoi ces précautions, Olivier Mocco? Dans quelle mesure les jeux de guerre ont eu un usage politique jusqu'à présent? Et quand on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des gens qui demandent aux créateurs de jeux vidéo, aux éditeurs, d'avoir un certain récit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un jeu vidéo véhicule une certaine vision?
Alors, premièrement, déjà, l'industrie du jeu vidéo est une industrie globalisée, donc vous ne faites pas de jeux vidéo pour votre marché intérieur. Donc, c'est du soft power par essence, si on prend la dimension politique, et c'est de la globalisation économique d'un point de vue marchand. Donc vous allez faire un jeu d'origine américaine, mais qui va être sur tout le territoire. Deuxièmement, sur les modes de production, c'est très globalisé, donc vous allez avoir des studios dans différents pays. Donc il y a une forme d'interculturalité qui existe et qui nivelle aussi, qui dépolitise progressivement. Et troisièmement, comme c'est un marché qui est global, on évite au maximum, d'une part, la politisation nationale forte, mais on va essayer de trouver des référentiels communs. Et un des référentiels communs, ce sont les conflits que l'on voit occidentaux à travers le monde. Ça a été pendant longtemps la guerre du Golfe, ça a été ensuite la guerre en Afghanistan, et puis progressivement on s'est éloigné de ces conflits-là pour essayer de dépolitiser, en tout cas de dépublicisiser le conflit, c'est-à-dire qu'il y a une privatisation de la guerre, une privatisation de la force, de plus en plus de forces armées, des groupuscules, plus ou moins terroristes, et parfois même le comble de la dépolitisation, c'est des groupes économiques qui font du terrorisme économique et qui vont avoir des milices privées et qui qui vont attaquer. Et donc on le voit bien avec la Call of notamment et les différents arcs narratifs, parce qu'il y a plusieurs types de Call of Duty, hein. Le Black Ops, c'est pas Modern Warfare, mais dans tous les cas Modern Warfare, c'est un peu des états mais avec du terrorisme, alors que dans les Black Ops, on est quasiment sur des guerres très privatisées, quoi. Donc il y a ça qui est intéressant, c'est des arcs narratifs, c'est des ressorts et en même temps, c'est des référentiels culturels partagés.
Alors, il y a toujours des groupes privés, par ailleurs, dans les guerres qui sont racontées dans ces jeux vidéo, ne serait-ce qu'en Irak, ce jeu de tir à la première personne, Six Day in Fallujah, qui recrée la seconde bataille de Fallujah en Irak en 2004, entre des forces états-uniennes et des milices irakiennes dans le centre du pays. Tout ça partait aussi de la mort de plusieurs, j'allais dire soldats, mais des hommes armés d'un groupe américain privé. On écoute un extrait de Six Day in Fallujah qui avait fait énormément polémique en 2006.
Wait, so what's going on now? Why are we backing off?
No fucking clue. Probably some political bullshit.
What's the point of making us do all that? This fucking bullshit! Fuck!
And our top story out of Fallujah, Iraq tonight.
Alors, pour quelle raison ce jeu avait-il fait polémique en 2004-2006? Non, c'était 2006, mais c'était très peu de temps, en fait, après cette bataille de Fallujah, comme si les jeux se faisaient presque en direct au moment où la guerre se faisait en même temps. Anthony Dabila?
La bataille de Fallujah, c'est vraiment un des moments forts où l'armée américaine a été le plus mis en difficulté. C'est vraiment donc ça part de l'assassinat par des militaires, des contractants de l'armée américaine qui sont de la société Blackwater, qui est la plus grosse société de mercenaires, je mets des guillemets parce que c'est pas exactement la même chose. En tout cas, ce sont pas des soldats qui appartiennent à l'armée, et ils ont tué des gens à l'entrée de la ville sur un pont. Il y a eu un début d'échauffourée qui est devenu une insurrection, et Fallujah, c'est vraiment une ville un peu comme Fès ou Tanger, avec un centre extrêmement dense où on ne peut pas aller en voiture, où c'est vraiment un centre urbain très dense. Et l'armée américaine a été mise en difficulté et c'est là où il y a eu le plus de pertes, d'où le fait de revivre cet épisode a été assez difficile parce que c'était comme louer les gens qui avaient attaqué l'armée américaine.
Donc là, c'était vraiment les vétérans états-uniens qui s'étaient soulevés contre ce jeu qui est finalement sorti, mais très récemment, je crois, il y a 2-3 ans, Six Day in Fallujah, non ? Il est sorti il y a 2 ans ?
Tout à fait. En fait, il y a beaucoup de ressorties via les plateformes. On ressuscite un peu des jeux via les plateformes de distribution en ligne. On n'achète plus les jeux vidéo dans des cartons avec un CD. On les achète directement en ligne comme une application et on la télécharge sur son ordinateur. Ça permet de bypasser, de contourner les obstacles à la distribution. Et il y a beaucoup d'exemples de jeux anciens qui ont revu le jour parce qu'ils n'étaient pas rentables ou risqués à l'époque.
Alors, il y a beaucoup d'obstacles à la distribution. Chacun a ses propres raisons pour les mettre sur la route des jeux vidéo quand ils estiment qu'ils ne servent pas à la fois leur image, leurs intérêts. Mais ça peut être pour des raisons qu'on peut tout à fait comprendre. Quand, par exemple, la mission No Russian de Call of Duty, qui en 2009 mettait le joueur dans la peau d'un agent infiltré qui accompagnait des terroristes dans une attaque dans un aéroport russe contre des civils, la Russie avait fait interdire, alors je ne sais pas si c'était le jeu tout entier ou juste cette mission-là. En tout cas, ça avait généré de véritables débats, et pas seulement en Russie. Les créateurs du jeu s'étaient défendus en disant le joueur pouvait choisir de ne pas tirer. Donc voilà, on mettait le joueur dans une position de responsabilité. Les créateurs s'en étaient défendus comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres cas, Olivier Mocco, de jeux interdits dans certains pays parce que considérés soit comme grossièrement caricaturaux, choquants, voire pouvant porter atteinte à la sécurité nationale ?
De manière globale, on a eu beaucoup d'interdictions en Chine des jeux vidéo occidentaux parce qu'il y avait une peur justement de créer du désordre public, hein, dans les années 2000. Maintenant ça a changé, hein, mais c'était très fortement limité. Il y a eu pas mal de condamnations aussi russes de certains jeux, notamment le fait que les jeux vidéo mettent en scène la Russie de manière toujours négative. Donc oui, il y a eu des interdictions, mais enfin. Disons que c'est plutôt des condamnations morales ou alors des interdictions dans des états voilà qui sont plutôt on va dire durs. Après vous avez eu toutes les polémiques sur les représentations de la guerre mondiale en Allemagne hein, qui est interdit hein. Vous avez la liste des jeux vidéo bannis et notamment parce que toute référence au Troisième Reich est impossible. Donc les Wolfenstein, les Call of du Seconde Guerre mondiale sont on va dire soit interdit, soit on va modifier les contenus justement pour ne pas choquer le passé allemand.
Oui, Anthony Dabila.
Oui, tout à fait. Donc, comme le rappelle Olivier, c'est l'importance du marché chinois est majeure. Et en fait, maintenant, on a des créateurs de jeux vidéo qui anticipent en fait une possible interdiction, vu que la Chine c'est plus que l'Europe et toute l'Amérique en population. Eh ben, il faut bien s'adapter et risquer quelque chose qui va être censuré, mais on anticipe, on s'adapte et donc on intègre les systèmes de censure d'un État qui n'est pas démocratique.
Tout le monde ne le fait pas. D'ailleurs, des créateurs taïwanais ont sorti en janvier 2024 le jeu Reverse Front qui invite les joueurs à s'allier au Tibet, à la Mongolie ou encore aux Ouïghours pour écraser le Parti communiste chinois. Ce jeu est une œuvre non fictionnelle, précisent les créateurs. Toute ressemblance avec des politiques ou des groupes ethniques réels de la République populaire de Chine est intentionnelle. Donc voilà, il y a parfois une volonté vraiment de véhiculer un discours à travers un jeu vidéo. Alors vous disiez, Olivier Mocco, que souvent les jeux, et y compris les jeux de la Seconde Guerre mondiale, où nous étions alliés avec les Russes faisaient partie des alliés, ils étaient souvent quand même assez stéréotypés, assez souvent ultranationalistes, violents, ne faisant pas dans la dentelle. Bon, des jeux où les Russes sont nécessairement des ennemis, pour des raisons cette fois qu'on comprend, ce sont les jeux que l'Ukraine a développés depuis l'invasion du pays à grande échelle. Le jeu Power and Chaos, par exemple, où on incarne un habitant de Mariupol qui se réveille le matin du 24 février 2022 et qui doit faire les bons choix pour protéger sa famille. Qui développe ce genre de jeu et avec quel éventuel soutien financier de la part du gouvernement ukrainien ? Olivier Mocco.
Alors ça, c'est effectivement l'usage du jeu vidéo à des fins de propagande ou de propagande, militantisme, ça existe
depuis longtemps. Ou patriotisme, en l'occurrence.
Ou patriotique, oui, peut-être. Bien sûr, militantisme, patriotisme, ça va être effectivement en fonction du contexte. Après, c'est toujours difficile à qualifier le plus simplement possible. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces usages-là, ils existent depuis, on l'a vu déjà, même dans les années 2000, hein, vous aviez des modes. Alors, généralement, c'est pas des jeux qui sont produits ad hoc, ce sont des modifications, hein, comme Anthony évoquait tout à l'heure. On prend un jeu existant, on le modifie pour le produire rapidement, pas cher, justement, et le diffuser largement, surtout sur PC, parce qu'il n'y a pas de problématique. Donc, ils vont faire ces jeux-là, ils vont s'en servir comme un outil de communication politique, en fait, hein, déjà dans un premier temps, parce que c'est pas certain que ça mobilise, par contre, ça attire l'attention, et c'est un acte fort, en tout cas, pour mettre en avant les problèmes, les souffrances et les difficultés. Mais en tout cas, est-ce que c'est un objet de guerre? C'est toujours compliqué, surtout quand c'est produit, voilà, par des citoyens. Après, la relation, si on revient sur cette relation Ukraine-Russie, notamment en termes de jeux vidéo, ça a eu un très fort impact sur la production parce qu'il y a eu beaucoup de développeurs. Déjà, le monde occidental travaillait avec les développeurs russes. Hein, c'était une partie de l'outsourcing, hein, qui était très compétent, très fort en dev et avec des taux journaliers plus faibles.
Donc, qu'est-ce que c'est en dev, pardon?
En développement, pardon. Oui, les coûts de développement. Ce qui fait qu'il y a eu une relocalisation qui a été faite, à la naissance du conflit, qui a particulièrement affecté l'industrie. Et en même temps, il y a eu un soutien aussi des Occidentaux. On pense notamment à Fortnite, qui a reversé l'intégralité de ses bénéfices pour le soutien de la cause ukrainienne. C'était quand même 127 millions d'euros, ce qui est quand même un soutien massif et énorme qui a été fait. Donc, les frontières, elles sont multiples et les usages, ils sont pluriels, quoi. Ça, c'est vraiment un point intéressant. Alors, est-ce qu'eux sont financés dans ce cas-là? Non, c'est généralement production autoproduite dans le cas de l'Ukraine. On a d'autres cas de figure où on va utiliser le jeu vidéo, effectivement, quasiment financé par l'État pour d'autres, pour justement s'imposer dans une guerre, on va dire, plus hybride contemporaine.
Anthony Dabila.
Et alors, comme le dit Steven Pinker, qui est un philosophe américain, le jeu vidéo a une fonction, c'est d'élargir le cercle de l'empathie. Comme vous mettez à la place de quelqu'un, c'est très facile de s'identifier et de faire passer un message. Et là, pour le coup, le jeu vidéo ukrainien où vous vous réveillez sous les bombes russes le 24 février 2022, ça permet de faire comprendre plutôt à l'international, pas vraiment en interne, parce que les gens qui prennent des bombes sur la figure, ils sont déjà mobilisés, ce qui est en train de vivre l'Ukraine. Et donc vous le mettez en scène et vous le faites jouer à des gens plutôt jeunes qui vont être plutôt votre allié. Ça fait partie d'une stratégie de communication plus générale de l'Ukraine, qui a été résumée dans un document qui s'appelle le Resisting Operating Concept, le ROC, qui est tout à fait intéressante parce que ça a pour but de conserver le soutien de l'opinion internationale, qui est même vu comme le centre de gravité de la guerre.
Il y a ces jeux de guerre développés en Ukraine qui ne sont pas nécessairement des jeux de guerre à proprement parler, où il faut raconter par exemple l'occupation russe à Boutcha, Hostomel ou Mariupol, et on met en avant plutôt les dilemmes et la souffrance des habitants, ce sont les mots des développeurs. Les civils ne se battent pas mais tentent seulement, entre guillemets, de survivre. En jeu vidéo d'ailleurs, qu'est-ce que ça donne de devoir protéger sa famille, peut-être quitter une zone occupée? Est-ce que vous avez pu les regarder, Anthony Davila, peut-être les tester, ces jeux-là? Ou Olivier Mocco, je ne sais pas.
Pas pour ma part.
Oui, non, pas vous. Et Olivier Mocco, est-ce que vous avez pu essayer soit ces jeux ukrainiens, soit les jeux russes, puisque la Russie n'est pas en reste? En mai dernier, un développeur a lancé un jeu vidéo où le joueur est incité à gagner du terrain dans des zones comme le Donbass. Donc il y a beaucoup de nouveaux jeux vidéo autour de cette guerre.
Ouais, il y a pas mal de jeux vidéo. En fait, c'est ça qu'il faut. Il faut distinguer, on va dire, le jeu vidéo grand public produit par des studios pour le marché global, et puis des jeux vidéo comme outils qui sont produits de manière plutôt indépendante et amateur. Et c'est vrai qu'ils sont intéressants parce que ils vous mettent vraiment en scène. Il y a tout un travail, on va dire, de sensations assez importantes, de discours, etc. Maintenant, ils sont pas forcément simples à accéder. Donc, il faut les télécharger. La distribution, elle est pas, enfin, quand c'est simple, elle est facile, mais elle est pas simple parce que pour le plus grand nombre des gens, voilà, ils vont pas le faire. Donc, ça pose la question de la diffusion. Et après, vous allez avoir des jeux, un jeu qui est intéressant, qui est accessible vraiment facilement, c'est This War of Mine, qui est fait par des Polonais qui travaillent sur le conflit fictif russo-polonais, vraiment qui traduit, parce que la Pologne est une obsession sur la guerre avec la Russie, et qui traduit la vie d'un civil de survie, en fait. Et c'est un jeu de un peu de gestion, narratif, très fort, et qui montre voilà les exactions, alors d'un pays qui à l'époque n'était pas nommé, mais qui montre la souffrance de la guerre, quoi.
Mais il n'était pas nommé. Ça, c'est intéressant. C'était pas explicitement la Pologne contre la Russie.
Non. D'accord. Non, c'était, alors, voilà. Graphiquement, les références, on sentait que c'était à l'est de l'Europe, évidemment, mais c'était pas explicitement nommé parce que c'était le grand public. Et à l'inverse, vous allez avoir les jeux vidéo qui sont explicitement des jeux, on va dire, qui sont nommés parce qu'ils sont, produits en temps de guerre, quoi. Et c'est ça qui est la difficulté, c'est le jeu vidéo indépendant produit ad hoc et la modification de jeux vidéo existants qu'il a peut-être parfois même intégré, dans certains jeux pour en faire de la propagande.
Alors, c'est d'autant plus intéressant que les jeux vidéo sont utilisés comme outils de simulation. Est-ce que c'était le cas de ce jeu vidéo que vous citez, où devait s'affronter la Pologne la Pologne, ce qu'on supposait être la Pologne contre ce qu'on supposait être la Russie. J'en profite pour dire que très certainement les spécialistes de la chose militaire, eux, savent reconnaître d'un coup d'œil en fonction des uniformes des soldats, des armes utilisées, de quoi ils retournent. Mais c'est vrai que pour la plupart des joueurs, c'est plus confus. Est-ce que ces jeux vidéo sont utilisés comme des outils de simulation, Olivier Mocco, comme il y a un siècle, on utilisait d'autres jeux, entre guillemets, pour se préparer à la guerre?
Alors là, c'est une grande question. C'est qu'est-ce qu'on appelle simulation? Est-ce que c'est d'inscrire l'espace-temps du jeu dans un monde identifiable, ou est-ce que c'est sur le côté des process, de la physique, de la mécanique et des actions à commettre pour justement arriver à un but militaire? Donc, grosso modo, si on résume, dans Call of Duty, c'est absolument pas une simulation, parce que si vous vous comportez sur le terrain comme vous vous comportez dans Call of Duty, vous avez une durée de vie de quelques secondes. Par contre, les technologies 3D, les modélisations d'armes dans certains jeux comme Armed Assault ont donné lieu, on va dire, à des spin-offs, mais à des boîtes, une société, Boyman Interactive, à sa partie game, à une partie entraînement militaire. Parce que la technologie du gaming, adaptée dans un contexte plus, qu'on dirait, de serious game, entre guillemets, ou de jeu de formation, là, ça peut fonctionner, mais ça nécessite un travail complexe d'écriture, des process militaires, de respect, d'apprentissage. Mais ça fonctionne, en tout cas, et c'est développé en tant que tel. Donc il y a des simulations, mais encore une fois, c'est pas le jeu d'action comme le film d'action. En fait, le film d'action ne vous apprend pas à faire des exactions. En fait, c'est du spectacle et d'entertainment versus des jeux de simulation qui existent, qui avaient commencé par la police dans les années 90. C'était les jeux de simulation étaient d'abord des jeux d'entraînement policiers. D'ailleurs, ça avait créé une confusion à l'époque. On se disait, mais on forme les gamins à tuer. Mais non, en fait, il y a des simulations en 3D dédiées à cela, de la manière qu'il y a des simulations industrielles pour des avions, pour des choses comme ça. Là, c'était vraiment dédié. Donc, ça ressemble de loin, mais quand vous regardez, c'est très différent. Et d'ailleurs, vous n'avez pas accès aux simulations militaires.
Je m'appelle Emeric, je suis un ancien très grand joueur de Counter-Strike. C'est vraiment un jeu de guerre, donc il y a des terroristes et des antiterroristes qui combattent sur une carte, ce qu'on appelle une map, avec deux objectifs évidemment contradictoires pour qu'il y ait un enjeu. Les terroristes doivent planter une bombe et la faire exploser. Et les antiterroristes doivent du coup tout mettre en œuvre pour que ils ne réussissent pas. C'est très addictif en fait.
Je suis le seul mec qui a jamais aimé les fusils sniper et pourtant je me suis retrouvé tireur de précision à mon premier stage à l'armée. Et alors que ça faisait rêver tout le monde sauf moi et c'est moi qui ai été envoyé. Mais non, j'étais plus moi un truc de bourrin, j'étais plus mitrailleuse, tir de saturation, je saturais la zone, faire baisser les têtes, c'était plus mon truc quoi.
Deux témoignages recueillis par Adrien Mora pour la série documentaire sur France Culture réalisée par François Test, Apprendre à être soldat, diffusée cette année sur la chaîne. Anthony Dabila, quel talent de joueur peuvent servir sur un vrai terrain de guerre et quelles sont les limites de cette façon d'en juger?
Alors une précision par rapport à la question précédente, c'est que là on se concentre sur le fantassin et ce n'est pas simplement la guerre de l'armée de terre du seconde classe qui est sur le terrain. La guerre, c'est beaucoup aujourd'hui des objets techniques très sophistiqués qu'il faut apprendre à manier. Et là, pour le coup, la simulation peut être très utile, voire des jeux vidéo commerciaux comme Flight Simulator peuvent vraiment donner une compréhension en profondeur des machines, des objets techniques.
Pour les drones, par exemple?
Pour les drones, mais pour les avions de chasse. Enfin, un pilote s'entraîne beaucoup sur simulateur, par exemple. Là, on peut vraiment dire que c'est un jeu vidéo développé à dessein pour l'entraînement. Et là, l'entraînement est vraiment parfait par une simulation qui s'apparente à un jeu vidéo. Pour les fantassins, on va plutôt mettre en des conditions réelles, par exemple un faux village dans lequel il y a un assaut entre deux équipes qui va mettre dans des conditions de stress. Et là, je reviens à votre question, c'est-à-dire qu'est-ce que le jeu vidéo apporte, c'est une certaine concentration, c'est une manière de vraiment être pleinement dans sa tâche, de réussir à ne pas paniquer, à maîtriser ses émotions, même si elles sont moindres, on peut commencer à envisager quels sont les personnages qui vont être le plus efficaces pour telle ou telle tâche et à faire une première répartition, un premier triage.
Et ça, vous l'avez vraiment remarqué, y compris dans des entretiens de recrutement, ça fait partie des talents qu'on peut demander qui sont requis ou des compétences?
Alors, pas jusque-là, parce que vraiment, il y a quelque chose qui... Le jeu, c'est une activité sociale séparée qui n'a pas de conséquences dans la vie réelle. Ça, c'est la définition traditionnelle de Huizenga et de Roger Caillois, qui sont deux sociologues de la moitié du XXe siècle. Et la guerre, c'est l'activité qui a le plus de conséquences, puisque vous pouvez en mourir et voir toute votre ville et votre décor quotidien détruit. Donc, le stress et la conscience du danger sont vraiment quelque chose qui sépare le jeu de la guerre. Néanmoins, il y a certaines tâches, certains états de concentration, une manière d'être dans la zone, comme on dit, c'est-à-dire d'être complètement focalisé sur sa tâche, qui peuvent être utilisées, mais pas au point de recruter les soldats comme des bons joueurs.
Les armées peuvent néanmoins utiliser les jeux vidéo pour motiver les troupes en attribuant tel score à tel acte de guerre, ce qu'on appelle le ranking pour les jeux vidéo. Ça existe en Ukraine en ce moment. On gagne 20 points pour endommager, 40 pour détruire un char, jusqu'à 50 points pour détruire un système de roquettes mobiles selon le calibre, 10 points pour tuer un soldat ennemi. Dans un article publié fin avril, je crois que c'était Ariane Chemin dans Le Monde qui avait fait tout un récit de la façon dont aujourd'hui les soldats en Ukraine peuvent gagner des points qui leur serviront ensuite sur une plateforme d'e-commerce Brave Market à acheter des armes, et donc les compagnies se font concurrence comme ça. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui, Anthony Dabila, est-ce qu'on a suffisamment de recul pour savoir ce que cette mise en jeu de la guerre, pour ne pas dire gamification de la guerre, qui est un mot assez monstrueux, a comme effet sur la guerre, la vraie guerre?
Tout d'abord, la ludicisation ou la gamification de la guerre n'est pas une chose nouvelle. Huizenga insiste beaucoup sur ça dans son œuvre fondatrice qui s'appelle Homo Ludens. Je conseille à tout le monde de le lire, c'est l'un des chefs-d'œuvre du XXe siècle. C'est très profond et ça a réhabilité le jeu comme un objet digne des sciences humaines. Et il est très clair sur le fait que la manière de jouer est une manière qui correspond à la manière de mettre en scène. C'est un objet social. Les catégories qui sont mises en jeu dans un phénomène ludique sont plus générales. Un procès, ça ressemble à une joute, pour Huizenga. C'est... pour simplifier. Donc aujourd'hui, la gamification, on va rendre similaire au jeu quelque chose de sérieux, parce que on sait que ça marche, on sait qu'on motive. Et là, on retrouve la phrase célèbre d'Oscar Wilde, la nature imite l'art. C'est quelque chose qui est constant et qui n'est pas propre aux jeux vidéo.
Avec un décalage qu'on peut ressentir quand on joue à ce jeu vidéo pour les soldats en Ukraine, entre la gravité de la situation et l'objectif de faire des points de jeu. Mais comme vous le dites, il y a toujours eu des systèmes de gratification dans les armées, donc tout ça soulève des questions passionnantes. Je précise que hors armée, des groupes paramilitaires aussi et des groupes terroristes utilisent aussi les jeux vidéo pour recruter ou pour tout simplement conduire des drones. On utilise des manettes de PlayStation ou autre. Olivier Mocco, est-ce qu'il y a aussi, alors dans le focus, on parlera spécifiquement du jeu Undertale, mais est-ce qu'il y a d'autres jeux où l'objectif est de ne pas faire la guerre?
Alors, ce qui est toujours difficile, parce que dans un jeu, vous avez une situation agonistique, et narrativement, vous devez vous battre contre quelqu'un. Maintenant, c'est les modalités d'action. Il y a des jeux dans lesquels on peut résoudre les problématiques sans tuer. Et c'était notamment le cas des premiers Fallout, plutôt Westland, où on pouvait, par la diplomatie, y arriver. Mais ça suppose d'avoir un gameplay, justement, d'évitement. Les jeux d'évitement, c'est quelque part des non-jeux. Donc, c'est toujours difficile de mettre en scène la non-action. Et d'ailleurs, ça renvoie quand même à un sujet qui est important sur cette connexion entre jeu, guerre. C'est le point du numérique, qui est le chaînon manquant et qui a quand même certainement tout changé. Parce que si on regarde bien, vous avez l'ensemble, bon, la guerre, c'est quelque chose de très processé, c'est pour ça qu'il y a de la stratégie militaire, il y a des process, il y a des actions, il y a des objectifs, c'est segmenté, et c'est comme ça que justement on planifie des actions avec des ressources allouées et des ressources mobilisées. Dans le jeu, vous avez la même logique, c'est ultra rationnel en jeu vidéo, même s'il y a ce côté émotion, pulsion qu'on peut voir, ça reste un dispositif très, on va dire, légal, rationnel, au même titre que l'administration et ou l'État. Donc c'est ça qui est assez intéressant, de se dire qu'il y a une homologie de structure entre ça et par-dessus le numérique qui va faire ce chaînon entre, maintenant, aujourd'hui, on a des outils, on a des dispositifs qui sont basés sur du numérique avec de l'algorithme, avec des systèmes de discrimination, avec des points de score. Après, appelons-le comme on veut et donnons-lui le sens que l'on veut. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une convergence aujourd'hui entre tout ça qui fait que la structure ludique, la structure numérique converge et est en parallèle avec la domination légale rationnelle de l'État, où on a quand même énormément d'administrations, de normes, de règles, de rôles, etc. Et c'est pour ça que le ludique a aussi cette capacité à redéfinir, ou du moins à remettre en scène un peu différemment ce qui structure nos sociétés actuelles, quoi. Donc c'est pour ça que c'est assez important de le souligner.
Alors on développera dans le focus, c'est Mélanie Chalandon qui a pu interroger hier le philosophe Dimitri Megherbi sur les questions morales que posent ces jeux de guerre, y compris les jeux qui proposent de ne pas faire la guerre, donc des jeux qui mettent en avant la paix comme véritable option de jeu, comme le jeu Undertale développé en 2015. Ce sera juste après Jack White, Taking Me Back, l'extrait de la bande-annonce de Call of Duty Vanguard. I bet you Bah aussi violent que Call of Duty, c'est Jack White, Take Me Back, une chanson de 2021. Quand la guerre se joue, c'est le deuxième épisode de notre série sur les jeux vidéo avec toutes les questions morales que posent ces jeux. Mélanie Chalandon a pu interroger hier le philosophe Dimitri Megarbi au sujet d'Undertale. Extrait de la bande-son de Undertale, un jeu de rôle sorti en 2015, développé par l'éditeur américain Toby Fox. Le personnage incarné est celui d'un enfant tombé dans un monde souterrain peuplé de monstres. Des monstres qu'il lui faut combattre et éliminer s'il veut remonter à la surface. Mais le scénario n'est pas si simple, car le joueur découvre au fil des parties qu'il existe d'autres options que la mise à mort de ses ennemis pour progresser. Il peut aussi dialoguer et les épargner, ce qui va changer le cours du jeu. Bonjour Dimitri Megarbi.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie au lycée, chargé de cours également à la Sorbonne Nouvelle. Vous travaillez sur une approche philosophique et narrative des jeux vidéo. Alors avant de parler de ce jeu Undertale sorti il y a 10 ans, il faut peut-être commencer par rappeler cette évidence et ce principe de base. Dans la plupart des jeux vidéo, la progression repose sur le fait que l'autre est un obstacle et qu'il faut l'éliminer.
Oui, tout à fait. Le jeu vidéo, dans son game design, c'est-à-dire dans la manière dont il construit l'expérience de jeu, a plusieurs techniques, évidemment. Et la notion d'obstacle, elle peut passer le plus souvent par l'affrontement à l'autre. Hein. On peut penser à des jeux de sport, on peut penser à des jeux de boxe, des jeux d'affrontement direct. Mais la grammaire la plus élémentaire du jeu vidéo, c'est quand même celle de l'élimination. Alors en fait, on va pouvoir faire varier ce terme. Hein. Éliminer, c'est peut-être tuer, c'est peut-être mettre à mort. Ça peut être dans certains jeux aussi faire s'évanouir l'ennemi, hein. Je pense notamment à la série des Pokémon, où les personnages ne sont pas directement tués, hein, où les Pokémon sombrent dans ce terme qui s'appelle le chaos. Mais éliminer, ça permet en premier lieu d'obtenir de l'expérience, d'obtenir des objets, d'obtenir de l'argent. Donc c'est vraiment un schéma récurrent dans l'expérience des jeux et qui a guidé le jeu vidéo depuis ses débuts.
Vous évoquez des gratifications qui sont reçues par le joueur lorsqu'il élimine ses ennemis, justement. Comment est-ce que les jeux conçoivent ces formes de gratification? Quelle est l'importance de ces gratifications dans la progression et dans la structure du jeu?
En fait, on peut vraiment les diviser en deux grandes catégories. Quand on élimine un personnage adverse ou un ennemi ou un monstre, hein, puisque ça peut prendre toutes ces formes-là, on peut avoir des récompenses sous forme d'argent, sous forme d'objets qui vont donc être utiles à l'aventure. Ou dans un deuxième grand genre de choses, ce qu'on appelle les points d'expérience. Alors c'est quelque chose de bien plus immatériel, évidemment, mais éliminer nous fait grandir, mettre à mort nous fait grandir. C'est une phrase qui peut sembler un peu étrange dite comme ça, l'action de tuer ou d'éliminer va être directement mise au service d'une progression. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir de vaincre un ennemi sans que cela nous apporte quelque chose. Ça fait partie des étapes du game design et de la notion de progression, de la prise en puissance du joueur.
Et c'est là qu'une première question morale se pose, puisque dans ce que vous décrivez, il y a assez clairement l'idée que tout est construit pour donner une incitation à éliminer au sens large, comme vous le disiez, c'est-à-dire tuer ou bien faire neutraliser l'adversaire.
Oui, et puis cette neutralisation, elle va directement déclencher quelque chose de très instinctif, de très primaire. Je pense vraiment que cet acte de tuer est à relier à quelque chose de vraiment ancré en nous. Bon, évidemment, ça pose la question de la morale, mais le fait de triompher, le fait de vaincre dans l'obstacle, ça donne évidemment une sensation de puissance et de maîtrise sur le jeu. Quand on bat, par exemple, un boss ou un ennemi un peu plus difficile, sa mort, son élimination est en quelque sorte une récompense déjà en soi. Alors, évidemment, tout ça va être relayé par une prise de niveau, une prise d'expérience, comme je l'ai dit. Mais la question de la morale se pose très rapidement, puisque l'acte de tuer, encore une fois, n'est pas neutre.
En 2015 paraît donc ce jeu Undertale dont on écoutait un extrait de la bande-son en début d'entretien. C'est un jeu produit par un éditeur indépendant, Toby Fox. En quoi ce jeu est-il différent dans la façon justement de concevoir le rapport à l'adversaire et le fait d'éliminer l'adversaire ?
Alors déjà, il y a une première remarque qui est intéressante, c'est que cette réflexion sur la notion d'élimination ou de meurtre, de mise à mort, elle surgit dans un terrain indépendant. Et le jeu vidéo indépendant est par nature un lieu beaucoup plus propice à explorer des thématiques que le jeu vidéo ne questionne plus ou ne questionne pas. Undertale n'est pas le premier à le faire, mais il le fait avec beaucoup de franchise et beaucoup de directivité, si on peut dire ça comme ça. C'est un jeu qui, après avoir... entraîner à nouveau le joueur à tuer les monstres, c'est-à-dire le terme est utilisé dans le jeu, le terme de monstre, donc quelque chose qui est autre par définition, quelque chose qui est déjà moralement condamnable, le terme est en lui-même moral. Après avoir entraîné le joueur à faire ce qu'il sait faire depuis le début de la création des jeux vidéo, c'est-à-dire éliminer sans réfléchir, obtenir des points d'expérience, ces points d'expérience, si on prend les lettres, EXP, sont redéfinis à la fin du jeu comme points non pas d'expérience, mais extermination points. Et là, la question morale se pose, c'est-à-dire que l'expérience qu'on a acquise s'est faite au prix d'une mise à mort de personnages qui étaient présentés comme des monstres.
Et qui ne l'étaient pas vraiment ?
Et qui n'était pas vraiment. En fait, si on passe un peu rapidement, ce que tout le monde fait quand on commence Undertale, on a une mise en scène sous forme de combat, les monstres ou les personnages nous apparaissent de face, bref, des codes que le jeu vidéo a bien digérés depuis, et on a évidemment le bouton attaque. Si on creuse un peu, on voit rapidement qu'on peut utiliser certains objets, qu'on peut essayer de discuter avec les fameux monstres, et qu'on peut finalement les épargner ou se sortir du combat par une autre issue que la mort. Or, la mort est beaucoup plus facile à produire dans Undertale, et le chemin de la discussion, qui est un chemin plus rationnel, plus discursif, prend du temps. C'est en quelque sorte une énigme. Or, cette énigme, elle n'est pas mise au premier plan, et c'est ça qui fait la subtilité d'Undertale, c'est qu'on n'a pas d'abord cette intuition du discours, mais plutôt on obéit au schéma récurrent du jeu vidéo, qui est la mise à mort.
D'une certaine manière, le jeu propose différents scénarios, deux versants possibles, le versant dit pacifiste et le versant dit génocidaire. Que se passe-t-il si le joueur décide d'exterminer tous les monstres ?
Alors l'extermination, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est elle qui produit les points d'expérience. Donc notre personnage va monter en niveau s'il tue, il ne le fera pas s'il ne tue pas. D'ailleurs le jeu s'adapte, hein. Plus vous tuez de personnages, plus le jeu se renforce et plus le jeu met à l'épreuve. Et si vous ne tuez pas, eh bien la difficulté s'adapte de manière un petit peu insidieuse et on ne se rend pas compte que le jeu ne résonne plus par niveau à ce moment-là. Si on choisit d'emprunter cette voie qui s'appelle la voie génocide, la bien nommée voie génocide, alors il s'agira dans un premier temps d'éliminer systématiquement tous les monstres jusqu'à épuisement de ceux-ci, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les combats ne se déclenchent plus puisque vous avez littéralement vidé toute la carte des monstres. Ça, c'est une première entorse à la règle des jeux vidéo un peu classique, si je puis dire. Dans Pokémon, on conçoit pas qu'il n'y ait plus de Pokémon dans le monde sauvage. Dans Final Fantasy, on conçoit pas que se balader dans la carte du monde ne produise plus d'affrontements. Et là, surprise, on voit que le jeu se vide petit à petit. Ce qui est une invitation pour le joueur à explorer davantage cette idée de l'extermination, puisque aucun jeu ne fait ceci. Ça culmine à la toute fin de cette voie génocidaire par le fait d'affronter un boss qui incarne le jeu lui-même. Et dans ce combat, si on le réussit, puisqu'évidemment le jeu ne se laisse pas faire et qu'il s'agit d'un des combats les plus durs jamais envisagés dans une partie de jeu vidéo, hein, le jeu résiste dans toute sa capacité à résister, mais il y a bien une possibilité de triompher, eh bien on finit par détruire le jeu lui-même.
C'est-à-dire que le jeu s'arrête, c'est écran noir.
Voilà, on tombe, alors évidemment on peut se sortir de cet écran noir, mais on tombe face à une scène qui est absolument hallucinée, qui est très très perturbante pour nous, avec un bruit de fond, et il faut attendre plusieurs minutes avant que le jeu nous propose de refaire quelque chose.
Est-ce que ce scénario-là, Dimitri McGerby, qu'est-ce que on peut en conclure? Est-ce que d'une certaine manière, le jeu ou les développeurs incitent le joueur à réfléchir, voire même l'incitent à préférer la voie pacifiste? Est-ce qu'il y a un message politique, voire philosophique, dans ce jeu?
Alors, je pense effectivement qu'il y a une invitation à réfléchir aux grands tropes du jeu vidéo, aux grands schémas du jeu vidéo qui sont installés, à plus forte raison que c'est un personnage qui va expliquer cette distinction entre expérience et extermination. Et à partir de là, le jeu va prendre une certaine forme, sous couvert de ce personnage que l'on affrontera par la suite, de jugement moral. Il faut quand même se dire que même s'il semble y avoir une hiérarchie entre tuer et ne pas tuer, les jeux vidéo brillent finalement par leur leur caractère de petits laboratoires moraux, que l'on pense à des expériences comme GTA, que l'on pense évidemment à des expériences comme Undertale. Les développeurs nous invitent à expérimenter de manière gratuite différents types de moralité. Hein, par exemple, une voie entièrement pacifiste dans le jeu Undertale, une voie mixte, qui est souvent la première, où des fois on tue, des fois on arrive à discuter avec le monstre, mais bon, on ne sait pas s'il y a une incidence à la fin. Donc évidemment, tout ça va se cristalliser en des sortes d'extrêmes. Je vais emprunter la voie génocidaire pour voir ce que le jeu a prévu si je vais au bout de cette idée. Je vais emprunter la voie pacifiste pour voir ce que le jeu a prévu en termes de scénario aussi. Donc je pense qu'au-delà d'une question morale, que le joueur va évidemment se poser, hein, ça fait partie de l'expérience de jeu, le propos du développeur est plus de nous mettre face à nos responsabilités, sans peut-être, du moins dans Undertale, privilégier un scénario plutôt qu'un autre.
Eh bien, merci beaucoup. Merci Dimitri Megherbi. Je rappelle, professeur de philosophie au lycée, chargé de cours à la Sorbonne Nouvelle. Vous êtes également musicien et président de l'orchestre Pixelophonia, qui reprend des musiques de jeux vidéo. Merci.
Merci beaucoup.
Et à vous, Mélanie Chalandon, pour cet entretien. Olivier Moko, après votre thèse sur les jeux vidéo dans laquelle vous avez étudié les imaginaires de la guerre, vous vous êtes lancé vous-même dans la création de jeux vidéo, mais pas de guerre. Est-ce que c'est votre travail de recherche qui vous en a convaincu ?
Oui, c'est à la fois un travail de recherche, parce que jeux vidéo traduit bien la complexité, hein, parce que ça crée des systèmes, ça crée un rapport à des systèmes. Et puis aussi, c'est un médium qui a tellement à dire qu'on peut explorer. Voilà, on a fait des jeux sur l'art contemporain, sur la protection de la forêt, parce qu'on peut faire tout ça, en fait, au même titre que la vidéo permet de faire des films, des documentaires et des reportages. Donc, à ce moment-là du jeu vidéo, c'est ça qui était assez fascinant et intéressant à explorer.
Et Olivier, Anthony Dabila, en deux mots, dans votre livre « L'échiquier stratégique, la grammaire de la guerre » à travers les âges, paru au Seuil en septembre. Vous parlez d'une voie médiane des jeux vidéo, vous appelez à distinguer les jeux qui jouent contre quelqu'un ou qui jouent contre personne, et c'est plutôt dans la guerre et les arts, pardon, que vous avez co-dirigé, en quelques mots.
Oui, c'est pour dire que la guerre n'est ni une fabrique d'assassins, ni un divertissement totalement neutre qui ne laisse aucune trace. C'est une manière d'arraisonner et de déréaliser la guerre, dans lequel on peut mettre des contenus culturels divers qui peuvent être ou pas déviants.
Merci beaucoup Anthony Dabila, chercheur associé au CEVIPOF et à l'Institut d'études de stratégie et défense de Lyon 3 Jean Moulin. Merci Olivier Moko, chercheur en sciences politiques, enseignant à l'Université Paris-Dauphine en économie du jeu vidéo et fondateur de l'Observatoire européen des jeux vidéo, d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale, Adrien Toffelet.
Ce matin aux États-Unis, Donald Trump s'en prend une nouvelle fois aux éoliennes.
Oui, c'est une escalade majeure dans la guerre lancée par le président américain contre l'éolien aux États-Unis. Donald Trump a décidé de mettre en pause pour une durée indéterminée 5 projets d'éoliennes en mer situés sur la côte nord-est du pays, au large d'une zone qui va de la Virginie au Maine. Des projets qui devaient permettre de produire de l'électricité pour l'équivalent de près de 2 700 000 foyers. Une décision qui n'est pas surprenante quand on se souvient à quel point le locataire de la Maison-Blanche soutient les énergies fossiles et honnit les énergies renouvelables, notamment parce que la précédente administration en a été un grand soutien. C'est d'ailleurs Joe Biden qui a lancé ses projets d'éoliennes offshore que Trump stoppe aujourd'hui. Certains sont quasi achevés, précise CNN, donc en partie en fonctionnement. Pour le président américain, en croisade contre les éoliennes, quelles qu'elles soient, ces installations sont une honte, une escroquerie. Voilà ce qu'il en disait déjà en meeting il y a quelques années. Si vous avez une éolienne à côté de chez vous, félicitations, votre maison vient de perdre 75% de sa valeur et il paraît que le bruit provoque des cancers. Sauf que cette fois-ci, ce ne sont pas ces arguments qui sont avancés par le gouvernement. Le département de l'Intérieur des États-Unis, le ministère qui contrôle les terres fédérales, cite un rapport classifié du département de la Défense qui estime que les éoliennes présentent une menace à la sécurité nationale. Il est écrit, sans entrer dans les détails, que les grandes fermes éoliennes offshore peuvent créer des interférences radars. Ce qui est vrai, précise CNN, ajoutant toutefois que la conception des parcs éoliens peut être modifié pour tenir compte de ces problèmes, et ça, le gouvernement américain le sait depuis des décennies. Toujours est-il que la décision de Donald Trump, sans surprise, provoque la colère de l'industrie, mais aussi au-delà du secteur des énergies renouvelables, car les entreprises installées dans les États qui devaient être alimentées par ces parcs éoliens font face à d'importants besoins. L'une des entreprises porteuses d'un projet éolien, citée par le média conservateur The Hill et le New York Times, précise que la mise à l'arrêt du parc menace la fiabilité stabilité du réseau électrique pour certains des équipements militaires, d'intelligence artificielle et civils les plus importants du pays. La Virginie en particulier abrite par exemple la plus grande concentration mondiale de data centers. Si bien que même dans le camp républicain, note Politico dans un autre article, le choix de la Maison Blanche est décrié. L'élu à la Chambre des représentants de Virginie, Jane Kegans, estime qu'interrompre les projets est désastreux pour la sécurité énergétique et l'économie locale. Dans tous les États de Nouvelle-Angleterre, rappelle CNN, où la densité de population est importante, les vagues de froid hivernal font régulièrement flamber les factures d'énergie. Dans cette région où le gaz naturel est importé et alimente la majeure partie du réseau et où les pénuries d'approvisionnement en électricité sont fréquentes, les parcs éoliens devaient aider à résoudre ces problèmes.
Au Portugal, Adrien, l'extrême droite est sanctionnée pour ses affiches de campagne présidentielle.
Oui, la justice portugaise a tranché hier. On ne peut pas écrire sur des affiches électorales. Ici, c'est pas le Bangladesh ou encore les Roms doivent obéir à la loi. Ces affiches, selon les mots de la juge que l'on retrouve dans toute la presse, aggravent la stigmatisation et les préjugés, favorisant ainsi l'intolérance, la ségrégation, la discrimination et la haine. Cette campagne d'affichage était celle d'André Ventura, le leader de Chega, le parti d'extrême droite créé en 2019, en campagne pour les présidentielles qui auront lieu le mois prochain. Les affiches, donc sur décision de justice, seront retirées, nous dit l'hebdomadaire Expresso. Ventura, néanmoins, se réserve le droit de faire appel, car il considère la décision de justice comme une attaque contre la liberté d'expression, donc contre la démocratie. Par ailleurs, je ne dis pas que les Roms ne respectent pas la loi, je dis qu'ils doivent respecter la loi, a-t-il justifié hier. Ces affiches ont néanmoins pu faire leur temps, cela fait plusieurs semaines qu'elles sont en place partout dans le pays. Elles ont même déjà provoqué beaucoup de bruit. Le magazine Visao expliquait Courrier International début novembre a produit notamment un dossier sur les populations bengalies installées au Portugal. Ils sont environ 55 000 originaires du Bangladesh et sont parfaitement intégrés, mais souffrent néanmoins régulièrement de violences racistes. Chega, peut-on lire sur le site Contacto, prospère sur les discours anti-establishment et anti-immigration, reprenant même la thèse complotiste et xénophobe du grand remplacement. En mai, après les législatives, le parti est devenu le premier parti d'opposition. Il a aussi remporté ses premières mairies au municipal en octobre et à l'approche de la présidentielle, il est à la porte du pouvoir. Dans les derniers sondages d'opinion, André Ventura est troisième des intentions de vote. Mais au coude à coude avec Luis Marques Mendes, le candidat de centre-droit, et Antonio José Seguro, candidat socialiste, tous les trois sont sondés entre 19 et 20%, donc dans la marge d'erreur. Le premier tour de la présidentielle aura lieu le 18 janvier.
Merci beaucoup Adrien Taufollet.